le 7-9 du week-end sur France Inter.
Bonjour Edouard Launay.
Bonjour.
Sorbonne Plage, c'est donc un groupe de scientifiques, et pas n'importe lesquels, puisque parmi eux, il y a des Nobel, qui chaque année se retrouvaient, donc pas très loin de l'île de Bréa. C'est le groupe de l'Arquest dont vous dites que ça a été une utopie, puis un nuage, puis une ombre, puis rien. En fait, c'est ça que raconte ce livre.
Alors là, je me permets de citer Victor Hugo. Je paraphrase Victor Hugo avec cette phrase qu'Hugo écrit en quittant Jersey. Mais avant d'être un groupe, Sorbonne Plage, c'est un lieu. C'est une presqu'île qui est entre Paimpol et l'île de Bréa, ouais. Sur laquelle, pendant près d'un demi-siècle, il y a une trentaine de familles d'intellectuels qui ont séjourné, et pas des moindres, que vous le disiez, 4 prix Nobel, des ministres, des artistes, des médecins, des historiens, j'en passe, et qui avaient pour particularité de se regrouper là parce qu'ils partageaient les mêmes convictions. C'était de gauche, de Fusard.
C'était des idéalistes.
Hein. C'était des idéalistes, absolument.
Des combattants.
Oui, qui ont inspiré une grande partie de la politique du Front populaire et auxquels on doit un certain nombre d'institutions encore actuelles, comme le CNRS, le Palais de la Découverte.
Il y a Jean Zay, d'ailleurs, qui passe à un moment donné, qui a été ministre de l'Éducation nationale.
Absolument, parce qu'il avait une collègue qui était Irène Joliot-Curie, qui a été elle-même sous-secrétaire d'État à la recherche. Première femme dans un gouvernement.
Absolument. On va revenir, évidemment, à tout cet aspect scientifique que vous développez dans ce livre, Édouard Launay, mais d'abord, je voudrais que vous nous parliez de ce merveilleux phalanstère et de la façon dont ils passaient leurs vacances, parce qu'on les envies, en fait. Ils n'avaient aucune contrainte de cuisine, de course, de ménage. Enfin, ça a l'air idiot, mais c'est quand même comme ça. Ils avaient des gens pour ça.
Absolument.
Ils ne se mélangeaient pas tellement, d'ailleurs, à la population autochtone, aux autochtones.
Ça, c'est une tribu plutôt... C'est l'élite intellectuelle. Donc, effectivement, ils ne se mélangent pas trop, mais ils passent des vacances de vacanciers. Ils se baignent, ils jardinent.
Longtemps, parce qu'ils ont des grandes vacances.
À l'époque, c'était largement 3 mois. Il y a beaucoup de professeurs de la Sorbonne, et les vacances universitaires, à l'époque, c'était pas rien. Et donc, ils mènent une vie relativement simple, hein, quand même. C'est pas luxueux. Les maisons qu'ils ont construites sur la presqu'île sont relativement simples.
Et, alors, ils bavardent, ils vont à la plage.
Absolument. Ils naviguent, ils jouent au volleyball.
On en parlait tout à l'heure avec l'invité de Laurence Luret.
Oui. Absolument. Et simplement, ces vacances ne sont pas totalement anodines, parce que ce groupe qui est là, parmi eux, il y a la fine fleur de la physique atomique mondiale. On a parlé de Marie Curie, Frédéric Joliot, Jean Perrin et plusieurs autres. Et une part de leur utopie humaniste, en fait, c'est les derniers vrais héritiers des Lumières. Ils pensent que le progrès est une flèche ascendante à l'infini, et qu'en plus, ce progrès scientifique va induire le progrès social. Mmh. En particulier l'énergie atomique.
Alors justement, à propos de l'énergie atomique, de la fission nucléaire, de la réaction en chaîne de l'atome, tout ça là, on voit que vous êtes quand même très très féru sur ce plan-là, et vous êtes très pointu tout de même dans ce que vous nous dites sur le plan scientifique.
Je me suis renseigné un peu.
Vous êtes renseigné un peu. Mais donc, leurs travaux ont permis aux Américains, finalement, de fabriquer la première bombe atomique.
C'est simple. Frédéric Joliot et son laboratoire du Collège de France étaient sur le point d'aboutir à une première fission nucléaire, une réaction nucléaire en chaîne. Simplement, c'était en juin 39, enfin c'était au premier semestre 39, et donc la balle est passée dans le camp américain à cause de ça, mais aussi parce que de grands savants européens, notamment les savants juifs, ont émigré aux États-Unis pour fuir les persécutions.
Alors donc, il y a cette espèce de courbe tout à fait ascendante, et puis à un moment donné, il y a Hiroshima, il y a Nagasaki, et là, c'est la stupéfaction.
Non seulement c'est la stupéfaction, mais c'est l'effondrement de cet idéal que le groupe de l'Arquest a porté pendant près d'un demi-siècle. Tout d'un coup, l'énergie nucléaire qu'ils ont aidé à accoucher depuis les travaux de Marie Curie sur le radium entre dans l'histoire par un holocauste. Alors, c'est une profonde consternation, c'est une déception. Et puis en même temps, on sent un petit peu de jalousie dans le groupe, parce qu'ils étaient à deux doigts de réussir, et Frédéric Joliot lui-même dit « bon... »
Ils ont l'impression d'avoir été volés un peu.
Pas volés, mais... Des chercheurs aiment arriver les premiers. Or, ils voient que les Américains ont repris la main très vite, parce que l'effort de recherche, fameux projet Manhattan sur la bombe atomique, a bénéficié de crédits absolument considérables qu'on n'aurait pas pu réunir en France.
Ils se sont sentis coupables ?
Non. Et je pense qu'ils ne devaient pas l'être. Je pense que ils ont accouché de quelque chose qui n'avait pas prévu et qui condamnait, parce que c'était un groupe de pacifistes. Joliot, sa femme Irène, signeront l'appel de Stockholm. Joliot se fera virer du CEA, commissariat à l'énergie atomique, qu'il a pourtant créé, parce qu'il s'opposait aux applications militaires de l'énergie atomique.
Vous écrivez, Édouard Launay, dans ce livre, puisqu'il est beaucoup question de l'Arquest aussi, que la recherche et la navigation sont dans le fond des activités assez semblables. Si on ne sait pas toujours très bien où l'on va, il est impératif de toujours savoir où l'on est.
Oui. Simplement, c'est pas toujours évident de savoir où l'on est, et encore moins de savoir où l'on va. Je pense que c'est un groupe de gens, moi, pour lequel j'ai beaucoup de sympathie, qui savaient à peu près où ils étaient, mais qui visaient un horizon un peu chimérique. Et je pense qu'Hiroshima, ça a été la fin du scientisme, cette fin d'une foi inconditionnelle dans la science, et que ça, il avait certainement pas prévu.
Vous parlez aussi d'une doomsday clock, l'horloge de l'apocalypse, qui est censée marquer la fin du monde est à minuit, c'est ça ?
La fin du monde est à minuit, nous sommes à minuit moins 3 minutes.
23h57.
C'est un petit groupe de scientifiques qui fait ça depuis plus de 50 ans et qui recense les menaces nucléaires, climatiques ou autres qui pèsent sur la planète. Et aujourd'hui, oui, ils estiment qu'on est à 3 minutes avant la catastrophe.
Il reste 3 minutes pour se dépêcher.
Bon, pour jouer
non, pas de
la
vivre,
vie.
Oui. Merci Édouard Lonnais. En tout cas, c'est un livre absolument plein de charme. Sorbonne Plage est publié aux éditions Stock. Merci à vous.
Merci.
Le 7-9 du week-end. Le journal des idées.
Et après Sorbonne Plage, puisqu'on vient d'en parler, faisons un petit tour du côté du journal des idées avec vous, Laurence Luret, au menu cette semaine des écrivains philosophes.
Oui, on commence avec Tristan Garcia. Vous en avez entendu parler sur notre antenne, puisqu'il s'agit du prix Inter 2016 pour son roman intitulé 7. Vous l'avez lu, bien sûr, Patricia.
Bien sûr.
Eh bien, après le romancier, ne ratez pas le philosophe. Son dernier essai est passionnant. Il nous emmène dans les coulisses de nos vies modernes, dont la devise pourrait être toujours plus vite, plus fort, plus haut. Alors il ne s'agit pas seulement d'être, mais d'être intensément qui nous sommes, de vivre toujours plus intensément nos vies, et là est le paradoxe. Pour Tristan Garcia, à force de vouloir intensifier notre vie, finalement on la diminue. L'intensité s'épuise d'elle-même lorsqu'on l'érige en seul but, c'est un leurre. Je vous en parle car j'ai beaucoup aimé ce livre, surtout son analyse du découragement actuel, de la fatigue que semble ressentir notre société. Pour lui, c'est le signe d'un point de bascule, le début d'une nouvelle conditions humaines à inventer, loin du déclinisme ou du toujours plus ambiant. Moi, je dirais que ça fait du bien. La vie intense, une obsession moderne par le philosophe Tristan Garcia, c'est publié aux éditions Autrement.
Un autre philosophe, Michel Serres. J'ai déjà entendu ce nom-là, c'est bizarre.
Ça vous dit quelque chose ?
Oui, ça me dit quelque chose.
Alors, encore un écrivain philosophe, inclassable, avec sa caverne de mots, bien à lui, sa faconde, son humour. Un philosophe insaisissable que Patrick Rudel tente de nous expliquer, passant de l'image traditionnelle du sage à celle de la sage-femme au chevet du monde, celle qui aide la vie à éclore, pied de nez qui ne manquera pas, je pense, de faire sourire Michel Serres. Alors, c'est ça qui nous plaît, je crois, avec les livres de Michel Serres. On a souvent l'impression de faire l'école buissonnière. C'est un philosophe marcheur, randonneur, avec ses chemins de traverse, ses détours, tout comme sa pensée qui nous emmène sur les chemins escarpés de la réflexion philosophique, corps et langue ne faisant plus qu'un, avec le souci toujours de dire le mot juste. Alors si vous aimez Michel Serres, vous l'aurez compris, c'est mon cas, ne ratez pas ce joli petit livre de 165 pages, Michel Serres, la sage-femme du monde, par Patrick Rudel, et c'est publié aux éditions Le Pommier.
Et vous n'avez pas écrit de livre, pas encore, en tout cas Laurence Luret, et je sais que Michel Serres a une toute particulière affection pour vous.
Et puis
c'est
pour
gentil,
tous
ça.
Ceux qui ne dormaient pas encore à 7h20, mais qui aiment le bord de mer, on peut rappeler le livre de votre invité tout à l'heure, le philosophe Pierre Kasounoguez, intitulé « Métaphysique d'un bord de mer ». Et oui, on prend le large, on s'abandonne au bord de mer et à ces heures qui coulent lentement. D'ailleurs, qu'en dit la philosophie ? Eh bien, réponse en réécoutant parenthèse, c'est sur le site du 7-9 avec Pierre Kasounoguez pour son livre magnifique « Métaphysique d'un bord de mer ». Vous le trouverez aux éditions du Cerf. Voilà de quoi bien commencer son dimanche. Moi, je dirais que ça sent les vacances.
Ça sent l'iode. Hein. Toutes les références sont sur la page du journal Les Idées, hein. C'est bien ça.
C'est ça.
À dimanche prochain, Laurent Suret.
À dimanche, bonne semaine.